L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Alors ce soir, Alain Juppé présente au Palais des Congrès à Paris bien son programme économique, présentation en public, et puis tout ça doublé d'un livre, hein, 5 ans pour l'emploi. Alors quel programme économique la droite doit-elle proposer donc aux Français, aux Françaises pour 2017. Est-ce qu'il n'y a pas une surenchère libérale justement? Est-ce qu'ils ne sont pas tous libéraux? En tout cas sur le papier, on verra après ce qui va se passer. On est toujours avec Jérôme Sainte-Marie à la tête de son institut de sondage et d'opinion Polling Vox, Mathieu Jolivet pour BFM Business, j'accueille Gilles David qui est chef d'entreprise à la tête d'Enertime qui propose des solutions énergétiques basées sur la thermodynamique, sur la production de chaleur. Emmanuel Lechypre de BFM Business et puis l'historien Jean Garrigue hein, qui vous propose Chaban-Delmas, l'Ardent.
Oui. La plus récente, c'est l'histoire secrète de la corruption sous la 5e République. qu'on vient de rééditer.
Ça n'a aucun rapport avec Chaban-Delmas, hein, a priori.
Ça peut avoir un lointain rapport puisque le pauvre Jacques Chaban-Delmas a été impliqué dans des affaires fort injustes pour lui.
Les avions?
Non, notamment celle de la garantie foncière.
Ça, j'avais oublié ça.
Qui touchait l'un de ses proches,
bon.
André Rivenry. Bon, il n'y avait pas corruption, mais enfin, il y avait affairisme et clientélisme.
C'était quand même des très petits joueurs à
très
l'époque.
Petits, ouais.
Pour tous les montants. Rappelez-vous Bérégovoy avec son million.
Millions de francs, à l'époque.
C'était incroyable, une autre époque.
Bon, très bien. Alors oui, Chaban-Delmas, je rappelle pour les plus jeunes qui étaient Premier ministre entre 60.
On n'est pas si loin de notre sujet du jour.
Hein. 74.
69 et 72.
69, 72. Après, c'était Pierre Messmer et voilà. Bon, très bien. Il y a 40 ans. Bon, alors oui, la droite actuelle, la droite de 2007. Riez pas, Mathieu Jolivet. Je vais vous interroger sur le programme de Frédéric Lefebvre, de Jacques Myard et de Nadine Morano, si
Mon Dieu, c'est les bizutages.
Bon, alors vous allez le voir. Donc, chez les candidats, hein, on retrouve donc les mêmes propositions. La fin des 35 heures, la réduction de la dépense publique, le relèvement de l'âge de départ à la retraite, 63. Principalement 65 ans, vous le verrez, 63 ans c'est Sarkozy, enfin s'il est candidat bien sûr. Il y a la volonté de redonner de la liberté aux entrepreneurs. Et puis un autre exemple, tiens, on va s'intéresser particulièrement à la fiscalité. Exemple décrypté, décortiqué par Dorothée Balzan.
Commençons par ce qui rassemble les candidats de droite, une cible, l'ISF. Jamais remis en cause depuis sa création en 1988, aujourd'hui, ils sont presque tous d'accord pour le supprimer, à l'image d'Alain Juppé.
Il fait fuir l'argent de France et il affaiblit l'économie française. Et donc on le constate quotidiennement. Ce que je veux, c'est réorienter l'épargne des Français vers l'investissement productif, vers les fonds propres de nos start-up et de nos entreprises. Et de ce point de vue, l'ISF est un épouvantail et donc je proposerai de la
L'idée d'une fiscalité moins punitive se retrouve chez tous. François Fillon, invité de BFM Business en février, ajoutait la question des successions à son programme.
C'est une motivation très forte pour le chef d'entreprise, pour l'entrepreneur, que de pouvoir transmettre son entreprise à ses enfants. Aujourd'hui, entre l'ISF et les droits de succession,
c'est plus possible.
Donc moi, je propose qu'on gèle les droits de succession tant que l'entreprise se transmet dans la famille.
Le sujet qui divise le plus, c'est l'impôt sur le revenu. Bruno Le Maire ne souhaite pas y toucher, même s'il promet des baisses d'impôts.
Je pense que l'urgence est surtout de simplifier les prélèvements, supprimer un certain nombre de niches fiscales et surtout alléger la pression fiscale sur les ménages français.
Alain Juppé reste prudent sur l'impôt sur le revenu et il appelle à se méfier des grandes promesses électorales. Nicolas Sarkozy s'engage, lui, à le réduire. C'est l'une des mesures de son contre-choc fiscal de 25 milliards d'euros pour ne pas oublier les classes moyennes, dit-il, des décisions qui seront prises dès le lendemain de l'élection.
Notre idée serait de voter dès juillet 2017 toutes les baisses d'impôts du quinquennat, y compris celles, je vais y venir, qui ne s'appliqueraient qu'avec un délai de 2 ans.
Une promesse qui vaut pour l'ensemble des Républicains, affirme Nicolas Sarkozy.
Voilà, c'est un exemple. Donc, la fiscalité est donc vue au travers de quelques-uns des, pour l'instant, 11 candidats à la primaire. Oui, on met Sarkozy dedans pour l'instant, Nicolas Sarkozy, même s'il n'est pas candidat officiellement. On verra ce qui va se passer, évidemment, au mois de septembre, s'il se lance dans la course. Emmanuel Lechypre, on reviendra sur le programme d'Alain Juppé, parce que je ne dis pas que vous y avez contribué, mais en tout cas, sur ce petit livre. Non, pas du tout. 5 ans pour l'emploi. le livre qui sort d'Alain Juppé, il y a une interview qui est menée, donc...
Oui, exactement. Ils m'ont proposé de
challenger
de
un petit peu. Voilà, c'est ça.
Voilà,
vous le poussez un petit peu, parfois. On viendra sur le programme de Juppé, mais est-ce que dans tous ces programmes, quels qu'ils soient, ceux de Bruno Le Maire, Nathalie Kosciusko-Morizet, Jean-François Copé, etc., etc., hors les missions régaliennes, est-ce qu'il n'y a pas une dominante, un dénominateur commun qui est le côté libéral qui ressort?
Alors, si j'étais pointilleux et que je prenais vraiment la philosophie libérale au pied de la lettre, je vous dirais qu'il n'y a aucun libéral dans l'affaire. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez une politique... Alors, si j'étais méchant, je dirais que vous avez une politique de déflation salariale patronale classique... qui est proposé par beaucoup de candidats, mais disons une vraie politique libérale dans sa philosophie, il y en a presque aucun. Alors après, à des degrés divers, ils veulent tous effectivement déverrouiller les blocages,
faire sauter, et on parlait de la loi El Khomri il y a quelques
temps, faire sauter tous les verrous. Effectivement, ils veulent tous réduire la dépense publique. Après, il y a des différences de philosophie quand même, parce que même si ce ne sont pas des vrais libéraux, vous avez des approches différentes. Vous avez une approche, par exemple, à la Bruno Le Maire, c'est une approche à la Cameron, grosso modo, avec son idée de grande société. C'est-à-dire, on fait faire aux citoyens ce que l'État ne fait plus. Alors que quelqu'un comme Alain Juppé...
Comme par exemple, donnez un exemple à chaque fois.
Bah, si vous voulez, en matière d'éducation, par exemple, vous avez des écoles qui sont maintenant des écoles gérées par des quartiers, etc., des gens, des entreprises, etc. Vous avez par contre quelqu'un comme Alain Juppé qui, lui, est très attaché au modèle français et qui, lui, considère que, par rapport à d'autres candidats qui disent que le modèle français, il est dépassé, on n'a plus les moyens de se le payer...
Je ne veux pas remettre en cause le système social à la France. Héritage Exactement. Du Conseil national de la résistance, voilà ce que disait.
Oui, lui pense que le système aujourd'hui dysfonctionne, c'est-à-dire qu'il est mal géré, il y a des gaspillages, il y a eu des surenchères de réglementation, de normes de code, etc. Donc qu'il faut le remettre en marche, mais il ne change pas la philosophie du système. Donc il y a quand même des différences philosophiques entre les candidats, même si après, entre celui qui veut 85 milliards de baisse d'impôts, celui qui en veut 110, tout ça, le principal reproche qu'on peut leur faire, à presque tous, c'est que quand ils vous ont dit qu'ils voulaient entre 10 à 25 milliards de baisse d'impôts, 85 milliards de dépenses publiques, c'est qu'ils vous ont toujours pas raconté l'histoire que veulent entendre les Français sur où est-ce qu'on veut les emmener. C'est-à-dire, quel est le projet? Quelle est leur vision de ce que sera la France dans 10 ans ou dans 15 ans? Et ça, tous sont très faibles aujourd'hui sur la question.
Gilles David, vous êtes chef d'entreprise, justement. Quelle histoire, vous, en tant que chef d'entreprise, à la tête d'Enertime, vous avez envie qu'on vous raconte? Mais pas une histoire à dormir debout, bien entendu, hein. Sur ces programmes des candidats de droite.
Oui, enfin moi je suis assez d'accord sur l'idée que la majorité des candidats sont quand même pas des vrais libéraux. Et c'est-à-dire c'est quand même il y a une tradition jacobine en France qui se perpétue génération après génération de gens qui font à peu près les mêmes études et qui poussent à peu près les mêmes idées. Je pense que c'est pas comme ça que la France se réinvente. Parce qu'au final on va retomber dans ces travers. Le jacobinisme, c'était bien au XVIIIe siècle, c'était bien au XIXe siècle, c'était bien sur une partie du XXe siècle, mais c'est plus adapté au monde aujourd'hui. Et ces gens-là nous expliquent pas comment ils adaptent la France au monde.
Dans ce que vous voyez, pour l'instant, des programmes ou des livres qui sont sortis de Copé, de Fillon, de Le Maire, de Juppé à venir, de Nicolas Sarkozy également, qu'est-ce qui retient votre attention en positif? Qu'est-ce qu'ils ont oublié, tout ce beau monde également?
Moi, je pense que...
Les 35 heures. Alors, les 35 heures, il faut revenir à 39 heures, nous dit-on. Donc, très bien. Les dépenses publiques, la fiscalité, bon, voilà, réduire le déficit public, alléger les charges pour les entreprises, les fonctionnaires, réduction du nombre, du nombre de fonctionnaires, faire en sorte qu'il y ait un statut maintenant qui soit plus proche de celui du privé, qui n'ait plus le statut à vie, non plus de la fonction publique. Voilà, là vous dites quoi? Oui, ouais, c'est bien.
Oui, je pense que c'est bien. Mais après, d'abord, est-ce qu'ils feront ce qu'ils disent qu'ils vont faire?
On est dans les primaires pour l'instant. Hein.
Et en général, la droite a toujours beaucoup de mal à faire des réformes, et je suis pas sûr que ces réformes-là, ils les mèneront au bout. Et puis, je pense qu'il y a quand même des réformes qui sont assez difficiles à faire. Et finalement, la gauche, parfois, elle arrive à les faire plus facilement parce que peut-être elle est plus légitime à faire des réformes que la droite. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'au bout du compte, on a besoin de ces réformes, mais personne n'arrive à les passer. Quoi.
Ouais. Jean Garry, quand on voit la fin des 35 heures, des allocations chômage dégressives, les allègements de la fiscalité, le relèvement de l'âge légal de la retraite à 65 ans, réduction parfois considérable du nombre de fonctionnaires, est-ce qu'on fait sauter des tabous, là, maintenant, de plus en plus, maintenant, qui a donné le là aussi, quelque part
Oui, alors, incontestablement, on est entré dans un cycle de remise en question de ce socle de l'État-providence ou du modèle français, du modèle social français qui veut concilier à la fois la croissance, le plein emploi et la protection sociale. Et on s'aperçoit que c'est de plus en plus difficile dans une économie mondialisée, numérisée, etc., et dans une transition civilisationnelle, puisque là, c'est vraiment ce qui se passe, et c'est le grand déficit, justement, de ces programmes, c'est de ne pas nous expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a besoin, aujourd'hui, de remettre en question, est-ce qu'on a tort, est-ce qu'on a raison, mais en tout cas, on pose la question, bon, bah, les 35 heures, ça fonctionne pas, mais pourquoi? Parce que on est dans une société qui est en une évolution, en mutation globale, une mutation qu'on n'en a pas connue depuis des décennies. Et donc là, il n'y a pas ce grand dessin explicatif. Alors c'est assez logique venant de Nicolas Sarkozy, dont on sait très bien que la marque de fabrique, c'est une sorte de réactivité permanente autour de ce qui d'une évolution. Mais on aurait pu attendre de la part d'un homme comme Alain Juppé, qui parle du Conseil national de la résistance, qui s'enracine dans une histoire longue, on aurait pu attendre qu'émerge précisément ce récit explicatif.
Alors un mot, Mathieu Jolivet, Jérôme Sainte-Marie, et oui, on continuera dans un instant.
Oui, en fait, c'est intéressant de voir que on a le sentiment, en tout cas, qu'il y a personne qui arrive à se démarquer des autres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez tous les candidats qui, chacun à des degrés différents, va finalement proposer un État qui se recentre sur ses priorités, une fiscalité moins lourde et plus lisible, et puis un code de travail plus léger, en gros, quoi. Et chacun, avec des degrés différents, va pousser ses curseurs plus ou moins loin. Mais c'est difficile de se démarquer là-dessus. Et alors ça, mais c'est peut-être plus le politologue et le sondeur qui pourra nous répondre, mais j'ai le sentiment que pour cette primaire, ce sera pas forcément sur le champ économique que la différence se fera, mais peut-être plus sur les valeurs que les uns et les autres peuvent incarner. Et là, pour le coup, on va parler de culture, d'éducation, d'immigration, d'identité. Et que c'est peut-être là-dessus que la différence se fera.
Jérôme Sainte-Marie, on continuera, Emmanuel, juste après. Jérôme, et puis on marque une pause.
Oui, excusez-moi, je trouve que tout ce débat est assez finalement idéaliste. Or, les idées politiques, et plus précisément les propositions politiques, eh bien, ça dépend des gens à qui ça s'adresse.
Ah oui.
Il y a un terreau. Oui. Or là, de quoi on parle ? On parle de la compétition pour l'instant pour la primaire. À tort ou à raison, la plupart des gens à droite sont convaincus que celui qui remportera la primaire et sera qualifié face à Marine Le Pen et deviendra président de la République. Donc pour eux, l'enjeu majeur, c'est ça. Quitte à ce qu'ils s'éloignent de plus en plus du point d'équilibre de la population française, y compris sur ces questions économiques, pour eux, c'est pas trop grave, parce qu'ils pensent que cette fois-ci, il y aura un second tour totalement aberrant. Toujours est-il que pour la primaire, eh bien, ils s'adressent aux gens qui vont voter à la primaire. Il y a un article de Jérôme Jaffré qui était très convaincant là-dessus, qui montrait, avec les données de d'Ipsos, je crois, qui montrait que le corps électoral de la primaire, tel qu'on peut le voir à travers les sondages, ne ressemble déjà pas du tout à la population française et ne ressemble même pas d'ailleurs à la population des électeurs de la droite
plus vieux,
à une présidentielle. Plus vieux, mais dans des proportions considérables.
Ça veut dire que le discours ne sera pas le même après la primaire.
Un exemple très précis. Ouais. Ça varie entre l'IFOP et Sofres, mais on a des chiffres pour les participants à la primaire qui, en ce qui concerne les retraités, ils constitueront entre 40 et 50% du corps électoral. Or, les retraités, qu'est-ce qu'ils veulent entendre ? Que ceux qui ne le sont pas encore travailleront de plus en plus longtemps. Et de plus en plus, chaque semaine, de plus en plus longtemps, quitte à se retrouver au chômage d'ailleurs, quitte à ne pas avoir de retraite, mais pour payer leur retraite. Les retraités ont peur. Par ailleurs, il y a beaucoup de gens des professions libérales, beaucoup de gens de cadres supérieurs, de gens qui ont un minimum de patrimoine, etc. Et cela, toutes ces idées les intéressent, mais ce qu'ils veulent surtout savoir, c'est est-ce que ça va leur profiter à eux ou pas.
On se continue dans un instant. Est-ce qu'à droite, ils sont tous libéraux ? Pour l'instant, évidemment, dans la compétition à la primaire. L'actu, c'est le programme d'Alain Juppé, le programme économique révélé ce soir. A tout de suite, on revient dans deux minutes.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Alors, quel programme économique pour la droite en 2017? Oui, c'est la primaire, évidemment, qui s'organise hein, en vue du scrutin donc du mois de novembre. Et chacun, pour l'instant, des 11 candidats, combien en aura-t-il au total, hein, évidemment, fait un certain nombre de propositions économiques. Dernière en date, et c'est pour ça qu'on en parle ce soir, c'est Alain Juppé, donc, avec son livre « 5 ans pour l'emploi » et donc ses propositions dévoilées devant le Palais des Congrès à Paris. Oui, propositions tous azimuts, hein, que ce soit de Frédéric Lefebvre, de Nadine Morano, de Jean-François Copé, de Jacques Myard, d'Hervé Mariton, de Bruno Le Maire, dans des domaines extrêmement divers et variés. Tiens, prenons par exemple les fonctionnaires. Hein, quelques exemples, avec Nicolas Sarkozy qui veut supprimer 300 000 fonctionnaires en 5 ans, François Fillon c'est le double, Bruno Le Maire promet 1 million de postes en moins en 10 ans, François Fillon veut relever la durée de travail de 35 à 39 heures par semaine, revaloriser les salaires dans la fonction publique, ça vous fait rire, tiens.
Oui, parce que vous avez remarqué que Alain Juppé insiste beaucoup sur ce qu'il va faire en 5 ans et Bruno Le Maire sur ce qu'il va faire en 10.
En 10 ans, voilà, peut-être double quinquennat, on verra, enfin en tout cas dans sa tête. Hein. Là, beaucoup veulent mettre fin à la garantie bureaucratique de l'emploi à vie, je cite Bruno Le Maire, Nathalie Kosciusko-Morizet qui veut limiter le statut de la fonction publique à quelques fonctions régaliennes, Jean-François Copé, il veut relever la durée de travail de 35 à 39 heures par semaine. Voilà, j'ai donné quelques exemples. Et c'est vrai qu'on voit un certain nombre d'autres propositions, allègement de la fiscalité sur les ménages, allègement de l'État. Est-ce que, Jérôme Sainte-Marie, il y a, oui ou non, une surenchère libérale de tout ce beau monde, donc en vue des primaires du mois de novembre ?
Surenchère, ce serait presque un jugement de valeur, mais en tout cas, on voit bien qu'ils se battent à peu près tous sur le même terrain. Il y a des différences, très certainement, mais elles sont pour l'instant peu perçues par l'opinion. Alors pourquoi ils se battent tous sur le même terrain? Parce qu'encore une fois, et là je parle pas uniquement de la primaire, même du vote réel, eh bien, maintenant la droite, c'est un tiers, un gros tiers de l'électorat. Autrefois, vous aviez des programmes différents, des courants différents au sein de la droite. Il y avait une droite plurielle, si j'ose dire, parce qu'elle devait composer en son sein avec beaucoup d'ouvriers, beaucoup de fonctionnaires. Et aujourd'hui, ces gens-là, des gens qui étaient favorables à l'Europe, des gens qui étaient hostiles à l'Europe, la clarification qu'on a commentée tout à l'heure sur la gauche qui est en train de se faire dans la douleur, elle s'est déjà faite depuis longtemps à droite. Tous ceux qui étaient généralement plutôt dans les catégories populaires, les actifs modestes, pas mal de petits fonctionnaires qui ont des valeurs de droite, tous ces gens-là, beaucoup dans la police ou la gendarmerie par exemple, ou dans l'armée, tous ces gens-là, ils sont déjà partis, ils ont déjà quitté la droite, ils sont au Front National. Aujourd'hui, vous avez une droite bourgeoise, libérale, europhile, c'est ce dont on parle actuellement. Donc forcément, il faut nourrir ces gens-là avec à peu près les mêmes produits, si j'ose dire, en politique. Et la droite populaire, la droite souverainiste, etc., elle est ailleurs. C'est plus la peine de lui parler si vous êtes candidat à la primaire.
Qu'est-ce qui a donné un peu l'inspiration? Jean Garrig, vous êtes historien donc à Sciences Po Paris, à Orléans. Est-ce que c'est François Fillon? Je lis Hervé Mariton qui lui prétend « le seul vrai libéral, c'est moi ». Lui, il promet 130 milliards d'économies, par exemple. Alors, il se dit ça ou pas, tous ces gens?
Non, mais le là... Franchement, il a été donné par François Fillon et je dirais qu'il a été donné quasiment au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy.
2014, avec son projet de rupture hein, qui revient sur plusieurs acquis sociaux. 110 milliards d'économies réalisées, la fin des 35 heures, la retraite à 65 ans, la suppression de l'ISF, la facilitation des licenciements économiques. Ça, c'était il y a 2 ans, hein, en effet.
C'est autour de cette conversion de ce séguiniste gaulliste social qu'était François Fillon au libéralisme, que peut se lire justement cette inflexion libérale dont on parlait tout à l'heure, et qui manifestement est quand même l'articulation.
Jean, il y a eu la révélation et il y a eu le coming out. C'est-à-dire que révélation, elle date d'avant l'époque où il était Premier ministre.
Tout à fait.
Donc,
à fait.
Quand il entre à Matignon, il est déjà converti au libéralisme. Mais il ne le dit pas. En revanche, c'est quand François Hollande est élu président que là, il rentre vraiment dans son costume libéral, mais la position socialo-séguiniste, c'était bien avant.
Et quand on voit Nicolas Sarkozy, François Fillon, qui ont été au pouvoir, justement, ce qu'ils n'ont pas pu mettre en œuvre ou qu'ils n'ont pas voulu mettre en œuvre pendant ces 5 ans, justement.
Mais juste rajouter quelque chose pour rebondir sur ce que disait Jérôme.
Jean Garrigue.
Il a tout à fait raison. La droite populaire, souverainiste, elle est partie au Front National ou chez Nicolas Dupont-Aignan, dont on voit qu'il se maintient.
Et lui aussi candidat à la présidentielle.
De 5% d'intention de vote. Mais le mot que n'a pas prononcé Jérôme, c'est le mot de gaullisme. Le poids du gaullisme dans l'histoire de la droite française depuis 40 ans. Et l'on voit très bien aujourd'hui que ceux qui devraient être les héritiers du gaullisme, et Nicolas Sarkozy avait rendu hommage, était allé à Colombelles et Deux Églises, etc., etc., ces héritiers-là, ils ont laissé, le dépôt du gaullisme, l'héritage du gaullisme, ils l'ont laissé en grande partie à Florian Philippot, et qui se réclame à juste titre de cet héritage du gaullisme.
Et qui est interventionniste, ouais.
Politique sociale, étatisme, enfin, il y a beaucoup de. Et indépendance nationale. Il est frappant de constater que cet héritage du gaullisme, aussi choquant que ça puisse paraître pour beaucoup, aujourd'hui, il a transité vers le Front National.
Alors, Jérôme Sainte-Marie, et puis avait juste après nous Gilles David, qui est chef d'entreprise.
Alors, très rapidement, parce qu'effectivement, certains, peut-être vous-même d'ailleurs, monsieur, peuvent être horrifiés, nous entendons dire qu'ils ont, tous ces candidats, une politique, des propositions libérales. Parce qu'effectivement, c'est ce qu'on appelle libéralisme en France, mais c'est pas vraiment du libéralisme. Non. Je prends un exemple très précis pour me faire comprendre. C'est beaucoup plus une politique destinée à certaines catégories sociales relativement élevées ou à certains groupes sociaux, disons, beaucoup plus qu'une politique qui est philosophiquement libérale. Un exemple frappant, à une époque, il y avait un débat sur la retraite. Retraite par répartition, retraite par capitalisation. Ce débat, pour l'instant, il n'a pas du tout émergé. Simplement, on parle toujours d'un modèle qui n'est pas libéral, qui est la retraite par répartition. Simplement, on dit aux retraités, vous en faites pas, on va faire en sorte que vous puissiez en profiter jusqu'au bout.
Fillon veut mettre en place un étage de retraite par capitalisation. Bruno Le Maire veut instaurer un régime de retraite par points. Et vous, qu'est-ce que vous attendez, Gilles David, à la tête d'Enertime, justement? Qu'est-ce qui a été oublié, franchement, dans tout ce qu'on a dit? Est-ce qu'on parle vraiment de réindustrialisation de la France, par exemple? Est-ce que ça fait partie de ce que vous souhaiteriez entendre?
Oui, moi je pense qu'il y a une partie de la France qui se sent abandonnée, en fait. Parce qu'en fait, il voit de la globalisation que la fermeture des usines, que la disparition des annexes de la Banque de France. Enfin, pour eux, la globalisation, c'est forcément extrêmement négatif. Et aujourd'hui, il y a quand même une faute des politiciens de gauche comme de droite, c'est de, en fait, de pas avoir libéré les énergies des entrepreneurs en France. Parce que c'est une chose que de donner beaucoup d'argent pour faire de l'innovation, pour créer la BPI, des choses comme ça, mais c'est une autre aussi d'arrêter de voir finalement l'industrie française comme les 50 sociétés du CAC 40. Et puis le reste, et cette grande forêt de baobab qui monte très très haut, eh bien, elles étouffent quand même tout le reste du territoire. Et aujourd'hui, moi, je suis frappé. Quand on va en province aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de trouver de l'argent, par exemple, pour faire de l'industrie. À Paris, c'est presque un gros mot aujourd'hui. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, Paris est une ville globale qui vit comme San Francisco, Singapour ou Londres, et qui voit plus l'intérêt de pour des ouvriers du nord de la France de trouver du boulot et d'aller tous les matins travailler dans une usine moderne dans laquelle ils vont se sentir responsables et utiles. Et ça, il n'y a aucun candidat qui en parle. Et quand vous parlez de libéralisme, ils sont pas libéraux, tous ces, ils sont pas vraiment libéraux.
Mathieu Jolivet. Oui, peut-être Fabrice, un point sur lequel Gilles David pourra peut-être réagir, mais il y a quelques mois, j'avais fait la tournée des popotes, en quelque sorte. J'avais passé pas mal de coups de fil pendant une semaine à tous les chefs d'entreprise assez influents qui défilent souvent chez nous, chez BFM Business. Il y avait tous les profils, hein. Il y avait des leaders patronaux, des patrons du CAC 40, des patrons d'ETI, hors antenne, hein. C'est-à-dire qu'on était en off et à tous, je leur ai demandé quel est aujourd'hui le candidat des primaires déclaré ou qui va se déclarer qui vous intéresse le plus. Tous, quasiment tous, hein, m'ont dit François Fillon, en off. Ils m'ont dit François Fillon, mais on peut pas le dire. On peut pas le dire parce qu'on est des chefs d'entreprise. Et pourquoi ils me disaient François Fillon tous? Parce que c'était, pour eux, ils avaient une perception de quelqu'un qui avait fait le travail, qui avait abattu le travail le plus solide. Sauf qu'ils me disaient, nous, on est des chefs d'entreprise, on reste pragmatique, un chef d'entreprise ne mise pas sur le mauvais cheval. Mais en tout cas, tout ça me donnait l'impression que les milieux d'affaires, si jamais quelque chose se passait avec François Fillon, les milieux d'affaires pouvaient vite embrayer derrière lui.
Vous, Gilles David, justement, vous n'êtes pas engagé dans la politique, mais bon, vous nous le dites ou pas, hein, si ça vous dérange. Dans tous les candidats à la primaire de droite, si vous êtes amené à voter lors de la primaire de droite au mois de novembre, vers qui ira votre bulletin de vote? Vous avez le droit de passer votre tour, hein, pardon. Hein. J'aimerais pas qu'on pose la question, par exemple. Voilà.
Je ne me prononcerai pas aujourd'hui.
D'accord. Non,
connais sa réponse. Sa réponse, c'est que c'est celui dans lequel il pensera qu'il va le plus tenir les promesses qu'il a faites.
C'est ça l'idée.
Mais alors,
c'est que on voit bien que beaucoup, on est sur des affaires de curseurs, sur la dépense publique, sur la fiscalité, etc. Celui qui va remporter vraiment les suffrages, c'est celui dont les gens seront convaincus qu'il fera ce qu'il dit.
Et par exemple,
il tiendra ses promesses.
Un gars comme François, un homme comme François Fillon qui a été premier ministre.
Oui, mais c'est son handicap.
Un président de la République.
Il n'est pas crédible.
Comme Nicolas Sarkozy. Alors justement, vous vous dites, il n'est pas crédible.
Non, il n'est pas crédible parce qu'on va lui reprocher. Il va traîner comme un boulet.
Le fait de ne pas avoir fait.
Qu'est-ce que vous avez fait quand vous étiez Premier ministre.
Tiens, Juppé, juste un mot. Emmanuel Chine, puisque vous avez lu 5 ans pour l'emploi et vous y avez contribué à votre façon, là encore, au travers d'une interview avec l'ancien Premier ministre, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qu'est-ce qu'on trouve? C'est quoi la ligne directrice de Juppé? C'est quoi? On ose, mais en même temps, on fait pas trop peur, c'est ça?
Alors, je crois qu'il y a la première chose, c'est cette idée, alors, qui peut paraître un peu paradoxale, c'est que, grosso modo, on a, depuis 30 ans, assisté à un affaiblissement de tout ce qui est régalien et qui nous protège, et qu'en contrepartie, on n'a pas arrêté de compliquer au quotidien la vie des gens. C'est-à-dire qu'en gros, lui, son message, c'est de dire « Je veux plus de liberté au quotidien pour les Français et un régalien plus fort. Je veux qu'on soit mieux éduqué, mieux protégé, etc. » Il n'y a pas de grand soir avec Juppé. Ça, faut être très clair. La réforme fiscale... Il revient pas sur les réformes qu'il juge mauvaises, mais dont il sait que c'est déraisonnable de remettre le métier sur l'ouvrage, comme celle des collectivités territoriales, par exemple. Sur la fiscalité, moi, j'étais surpris. Pour les ménages, il n'y a pas grand-chose. Il relève le plafond du quotient familial, mais il ne touche pas au barème, etc. Donc, il est plutôt très prudent. Et puis, il a deux idées. Pour lui, il y a deux types de population, vraiment, en caricaturant. Il y a la population qui a les codes et les outils, entre guillemets, pour s'en sortir. Et celle-là, elle a besoin de liberté. Par exemple, sur les effets de seuil, lui, il gèle tous les effets de seuil pendant 5 ans. Il fait une TVA sociale, c'est un des seuls à faire une TVA sociale pour les transferts de charges. Et par contre...
On va y revenir dans le détail.
Et par contre, son autre ligne directrice très très forte, c'est la formation et l'éducation. C'est un échec majeur à tous les niveaux, il estime, depuis la maternelle jusqu'à l'apprentissage et à la formation continue dans l'entreprise. Et ça, pour ceux qui n'ont pas les codes, c'est-à-dire les chômeurs de longue durée, les mal formés, etc., il met un très gros paquet sur tous ces sujets-là.
Alors, Jean Garrigue et Gilles David.
Un tout petit complément par rapport à ce qui vient d'être dit. Il ne faut pas sous-estimer pour Alain Juppé l'expérience bordelaise.
Oui.
Hein, c'est une expérience du concret, une expérience de gestion, une expérience de gouvernance. Semble-t-il réussie? Il semblerait que Bordeaux ait quand même pris un rayonnement et que les Bordelais soient contents de leur maire.
Il cite beaucoup ce qu'il
cite
a fait.
Beaucoup l'expérience
bordelaise. Alors qu'il avait tout à gagner, parce que c'est une ville qu'il a pris, il y avait tout à faire. Et que c'est pas une ville, c'est pas Vierzon ou c'est pas Châteauroux. C'est-à-dire que c'est une ville où il y a quand même de l'argent. Je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit, attendez, Bordeaux, c'est facile, entre guillemets.
Ouais.
Et bon, voilà. Mais il a cette expérience. Et il n'est plus abîmé par son expérience de Premier ministre.
C'est vrai.
Parce que, et quelque part, il restera peut-être comme quelqu'un de relativement neuf à l'usure du pouvoir.
Je termine juste.
Jean Garrigue, historien.
Bordelais, c'est aussi l'expérience des deux mondes. Ceux qui ont les codes,
bien sûr.
Et ceux des banlieues, de la périphérie bordelaise, qui sont touchés par le chômage, etc. Et puis, alors, la deuxième chose, c'est que, dans la perspective de la primaire, ben, il ressemble à l'électorat de la primaire, justement. Et ça, c'est quelque chose qui risque bien d'être déterminant.
Jérôme Sainte-Marie. Gilles David, à la tête d'Enertime, chef d'entreprise.
Oui, je donne crédit au candidat qui va être élu pour être un candidat du 21e siècle, en fait. Et après tout, son âge ou son origine ou ce qu'il a pu faire dans le passé, c'était adapté à il y a 30 ans. On faisait pas la même chose. Ce qui est certain, c'est que moi, par exemple, je ne me reconnais pas du tout dans le gaullisme. Moi, je suis né à la fin des années 50. Pour moi, le gaullisme, ça ne représente rien de chez rien. Et je comprends pas, d'ailleurs, qu'on remette le gaullisme systématiquement sur la table.
Je vous rassure, eux savent pas non plus. Hein.
C'est
demandez à Henri Guénaud de vous définir ce que
c'est que le gaullisme. C'est une mantra qui a pas de sens. Par contre, ce qui a du sens aujourd'hui, c'est effectivement ce qu'il a réussi, si c'est Alain Juppé, ce qu'il a réussi, c'est Fillon. Ce qu'ils ont réussi, les autres candidats, ça c'est important et ça parle.
Juste un mot très court, hein, on y reviendra. La TVA sociale, c'est Patrick Coquidet qui nous en parlait tout à l'heure à la mi-journée. Alain Juppé donc propose de réduire les cotisations familiales payées par les entreprises et les indépendants de 10 milliards d'euros. Et pour financer la mesure, donc, il va augmenter d'un point le taux normal de TVA, donc actuellement à 20%, ce qui représenterait 6,5 milliards de TVA supplémentaires payés par les consommateurs chaque année. Ouais. Fillon, il va plus loin. Il dit qu'il faut augmenter la TVA de 3 points. C'est risqué ou pas, cette histoire, ça cesse?
Alors, sur le plan de la politique économique, c'est judicieux, puisqu'il faut rappeler que s'il y a bien un moteur qui tourne en France aujourd'hui, c'est la consommation. Donc, au niveau macroéconomique, il n'y a pas de problème de pouvoir d'achat. Donc, c'est une mesure qui est intéressante. Après, le risque qu'il prend, c'est que quand on met tout bout à bout, c'est-à-dire les baisses d'impôts pour les entreprises, la suppression de l'ISF, la TVA sociale, et qu'en revanche, il n'y a pas de baisse d'impôts ou très peu pour les particuliers, etc., c'est qu'on lui dit, vous faites une politique pour les riches. Voilà, c'est ça, la critique qu'il va devoir
De l'entre-deux-tours, donc, de 2007, avec un certain nombre de postes de députés de droite qui avaient été perdus. Qui les inspire, justement, ces candidats, candidates, donc, de droite aux primaires? Tiens, écoutez, l'économiste Robin Rivaton, il était sollicité par l'ensemble des candidats, je pense, quasi la totalité des candidats. Finalement, il va travailler pour Bruno Le Maire. Voilà ce qu'il disait cet après-midi, donc, à Dorothée Balzan, sur la méthode de travail de Bruno Le Maire avec des économistes.
Comment on travaille avec Bruno Le Maire? C'est toute une équipe d'abord, hein, qui de plusieurs, une bonne centaine de personnes qui travaillent sur un projet très très construit. Concrètement, comment ça s'incarne? On fait un gros travail de réunion en amont avec d'autres experts, d'autres spécialistes, beaucoup de gens de la sphère privée, quasiment une très grande majorité d'acteurs de la sphère privée, pour essayer de débroussailler les sujets, pour essayer de trouver de la validation aussi auprès des personnes qui sont en charge de la partie politique du projet, et puis ensuite préparer les arbitrages les plus directs et les plus francs possibles pour le candidat.
Voilà l'économiste Robin Rivaton. Voilà ses programmes, ses livres aussi, hein, Faire de François Fillon, La France pour la vie de Sarkozy, Pour un État fort, donc c'est Alain Juppé. Mathieu Jolivet, qui les inspire, qui les écrit, tous ces programmes? C'est
pas les candidats eux-mêmes. À la base, ils ont tous des armadas d'experts et ils ont tous à peu près la même méthodologie, qui a repris d'ailleurs le FN qui se professionnalise. Ça, c'est un autre sujet, mais ils sont en train de se professionnaliser.
On parlera du FN, bien sûr, un autre jour.
D'accord, j'aurai des informations à vous apporter. Mais ils ont des armadas d'experts et en général, vous avez par exemple, chez Alain Juppé, que connaît bien Emmanuel Le Chip, vous avez Pierre-Mathieu Duhamel, que vous connaissez bien aussi, qui était ancien directeur du budget, qui lui est au niveau technique, budgétaire, fiscal, est une référence incontournable, et j'allais dire transpartisane aussi.
Donc Alain Juppé, dans son livre, cite beaucoup d'économistes et beaucoup de livres, etc. Il a travaillé avec Philippe Aguillon, notamment.
Voilà. Donc vous avez comme ça des références, alors parfois un peu techno, mais qui en coulisses coordonnent en fait des groupes d'experts. Ça, c'est pour la méthodologie, et qui font des fiches. Vous avez par exemple un conseiller parlementaire qui travaille avec Gilles Carrez depuis des années, qui toutes les semaines envoie à Alain Juppé et à un autre d'ailleurs candidat une petite fiche macro sur et conjoncturelle.
Et vous avez l'impression qu'ils connaissent bien leur dossier, leur domaine économique ou pas, Emmanuel Le Chip?
Alors, je les ai pas tous rencontrés aussi intensément qu'Alain Juppé. Alain Juppé, c'est assez spectaculaire. Il connaît énormément de choses. Et juste pour terminer, demain, importante contribution au débat pour tous les candidats, c'est le livre de Jean Tirole, qui sort le même jour que le livre d'Alain Juppé, et qui est le premier livre de Jean Tirole accessible au grand public, qui n'est pas un livre académique dans lequel il traite les grands sujets. La finance, le chômage, le rôle de l'État, etc. Et ça va incontestablement, sans doute, apporter des nouvelles propositions sur la table. On verra comment les divers candidats s'en emparent.
Il viendra à la librairie de l'Écho, j'imagine.
À la librairie de l'Écho.
Absolument. L'émission d'Emmanuel Le Chip, le vendredi de 23h à minuit, avec Benaoud Abdedaïm, Christian Chevalier,
Jean-Marc Daniel, Stéphane Colo.
Voilà, une bonne petite bande sympathique. Merci Emmanuel Le Chip. Je remercie Gilles David, président d'Enertime, qui propose des solutions énergétiques innovantes, hein, chef d'entreprise. Donc, je vous laisse son témoignage ce soir pour parler des primaires de la droite. On parlait de Bordeaux tout à l'heure. Tiens, précipitez-vous sur le livre de Jean Garrigue, Chabandelmas, l'Ardent. Oui, lui, il a marqué particulièrement la ville de Bordeaux. J'ai encore plus, c'est sur une plus longue durée que Juppé. Jérôme Sainte-Marie, président de Polling Vox, et puis Mathieu Jolivet, reporter à BFM Business. Bonne soirée, bonne nuit, on se retrouvera avec les décodeurs de l'Écho demain soir à 19h en direct.
Les décodeurs de l'Écho sur BFM Business.